Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La mort de 18 Palestiniens, dont 10 étaient apparemment membres du Hamas, à la suite de la répression israélienne d'une manifestation d'habitants de Gaza vendredi dernier. Cela constitue l'épisode le plus sanglant du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014, conçu pour durer plusieurs semaines. Le mouvement de protestation palestinien, qui se voulait cette fois-ci non violent et éminemment politique, s'est heurté d'entrée à une réponse purement militaire de la part des autorités israéliennes. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Alain Diekhoff. Bonjour, vous êtes directeur du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Vous avez publié notamment le conflit israélo-palestinien chez Armand Collin. À côté de vous, Leïla Sera. Bonjour, vous êtes chercheuse associée aux séries et vous avez notamment publié Le Hamas et le Monde. Et on va peut-être commencer par évoquer ce qui s'est déroulé du côté palestinien, donc dans la bande de Gaza, avec le sens de cette manifestation et le déroulement, selon vous, de ce drame.
Oui, tout à fait. Le déroulement, tout simplement, le 30 mars dernier, comme chaque année, les Palestiniens mobilisent lors de la fameuse Journée de la Terre qui, en 1976, avait connu donc des violences, notamment en Cisjordanie, et les Israéliens avaient assassiné des Palestiniens d'Israël qui luttaient contre la confiscation de leurs terres. Donc, c'est une journée qui, le 30 mars, commémore chaque année cet assassinat et qui mobilise des Palestiniens chaque année. Donc, tout simplement, elle s'inscrit dans un calendrier, disons, historique. Cette année, les Palestiniens, notamment à Gaza, ont décidé de mobiliser plus longtemps et différemment pendant 6 semaines jusqu'au 15 mai prochain, qui est donc la date de la création de l'État d'Israël et qui commémore aussi la Nakba pour les Palestiniens. Donc cette année, on peut peut-être aussi dire que le président Trump a décidé au même moment, donc à la mi-mai, de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donc voilà pour les faits. Donc comme vous l'avez rappelé, le vendredi 30, il y a donc eu 18 morts côté palestinien et les jeunes qui se sont approchés à la frontière avec Israël, donc dans la bande de Gaza. On a à peu près 5 points dans la bande de Gaza qui rassemblent des Palestiniens du nord au sud, des points qui sont ceux de la frontière israélienne. Et on a, disons, deux composantes du mouvement. On a d'une part des jeunes un peu téméraires qui s'approchent de la frontière et d'autres qui préfèrent mobiliser sous des tentes et s'installer un peu à l'écart, c'est-à-dire dans une zone que les Israéliens considèrent comme un no man's land. Donc évidemment, ce sont encore une fois des zones que les Palestiniens n'ont pas le droit d'investir, mais que les Palestiniens, cette fois-ci, ont décidé d'investir avec donc des tentes, de la nourriture, ils s'installent, ils regardent la télé, enfin ils investissent la place comme d'autres ailleurs mobilisent et investissent les places.
Voilà. D'un côté on parle de manifestations pacifiques, de l'autre de provocations. Comment se faire une idée, j'allais dire objective, de ce qui se passe là-bas, Leïla Sera?
Tout simplement, je crois que il faut rappeler que ce mouvement est un mouvement qui a démarré de la société civile. La marche du retour englobe une large partie des factions palestiniennes, certes, qui sont dans ce fameux comité. Donc, comme je vous le disais, il y a deux composantes. Il y a des jeunes et ensuite il y a ce qu'on appelle le haut comité de coordination qui regroupe l'ensemble de la société civile de Gaza, y compris donc des factions politiques, évidemment. Donc dans ce comité, il y a le Hamas, le djihad islamique, le Fatah, le FPLP, le FDLP et des indépendants. Donc tout ce monde-là est réuni dans le haut comité d'organisation, puisque pour réunir tous les Palestiniens, organiser tout simplement les ambulances, la nourriture, l'eau et tout ça, pour organiser cette mobilisation, il faut donc une coordination, et ce sont là les factions qui s'en occupent, évidemment. Mais il ne faut pas confondre, en fait, l'organisation avec la manière dont les Palestiniens eux-mêmes mobilisent indépendamment des factions. Ce n'est pas parce que des factions politiques organisent et soutiennent qu'elles sont à l'initiative d'une mobilisation largement populaire et civile. Donc voilà, je crois
que... Non, parce que ce que dit l'armée israélienne, c'est qu'elle n'a pas tiré sur des manifestants pacifiques, qu'elle a tiré sur des individus dangereux. On évoque donc les 10 membres du Hamas qui font partie des tués. Est-ce que pour vous, c'est de la communication, de la propagande, ou bien est-ce que c'est un fait et qu'on a affaire à des gens qui étaient menaçants?
Alors, tout simplement, les jeunes qui ont été tués sont... on parle de 10 membres du Hamas, d'autres du djihad islamique, etc. Comme je vous le disais, ces jeunes ont mobilisé en tant que jeunes. Ne portaient pas d'habits militaires, n'étaient pas affiliés à leurs branches armées respectives au moment où ils mobilisaient. Et je pense que ça, c'est très important de comprendre qu'il faut aussi déconnecter un individu de son appartenance. Un individu n'est pas forcément lié à une seule identité. Un jeune peut être affilié à une branche armée quelconque, pour différentes raisons d'ailleurs. Dans la bande de Gaza, ça fait 10 ans que les jeunes souffrent de chômage. Ils ont peut-être besoin aussi d'être affiliés à une branche armée politique pour tout simplement... subvenir à leurs besoins, avoir des revenus, etc. Les jeunes qui ont été tués et qu'Israël dit étant des combattants du Hamas, certains sont certes affiliés au Hamas, et d'ailleurs les Gazaouis l'ont découvert plus tard lorsque le Hamas a lui-même publié leurs photos. Et ça a un peu fait débat dans la société gazaoui, au sens où tout d'un coup le mouvement civil s'est dit mais pourquoi le Hamas publie ces photos des jeunes en plus dans leur habit militaire, alors que ces jeunes finalement, bien qu'affiliés au Hamas ou à d'autres mouvements comme le djihad islamique, ne mobilisaient pas pour ces factions, parce que le mouvement civil tout simplement est déconnecté des factions politiques. Et je pense qu'on a un petit peu du mal à comprendre que les Palestiniens peuvent mobiliser sans faire référence à ces factions politiques. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ils l'ont toujours fait. Il y a beaucoup de précédents historiques qui le montrent. D'ailleurs, la première intifada a été déconnectée des factions politiques. À Jérusalem, on a eu, après la guerre de 67, un large mouvement aussi civil lié à la municipalité de Jérusalem qui, tout simplement, luttait contre les confiscations des propriétés des Palestiniens à Jérusalem-Est. Et d'ailleurs, à l'époque, les Israéliens aussi avaient essayé de décrire ce mouvement civil comme étant affilié à l'OLP. Et les Israéliens, à l'époque, considéraient l'OLP comme terroriste. Donc on a, encore une fois, la même tentative de faire comme si, finalement, ces mouvements civils étaient tous liés à des organisations politiques qu'Israël, tour à tour, va considérer comme des organisations terroristes.
Votre point de vue, Alain Diekhoff?
Ce qui me paraît assez évident, c'est que il y a quand même assez clairement une volonté du Hamas de d'utiliser ce type de mobilisation pour se remettre en selle politiquement. Moi, je pense qu'il faut pas négliger cet aspect, et le fait qu'ils aient en effet ouvertement revendiqué un certain nombre de personnes tuées comme des martyrs montre bien qu'il y a cette volonté de réappropriation politique. Alors moi, la question qui m'intéresse, c'est réappropriation politique pourquoi? Alors, réappropriation politique, à mon avis, par le Hamas, parce que dans le fond, il n'est pas en très bonne posture politiquement. Il n'est pas en très bonne posture parce que depuis maintenant quelques mois, il y a un accord dit de réconciliation qui a été signé avec le Fatah. Le résultat, c'est qu'il n'a rien donné.
Il faut rappeler Alain Diekhoff qu'il y a une scission au sein des Palestiniens.
Alors oui, en effet, il y a depuis 2007 une scission. Alors géographique, elle existait toujours, puisqu'il y a Gaza d'un côté qui est séparé d'à peu près 60 km de la Cisjordanie, mais il y a surtout une scission politique, puisque la Cisjordanie reste dominée par le Fatah et l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, et de l'autre côté, depuis 2007, après une sorte de coup d'État, le Hamas a pris le pouvoir en chassant le Fatah. Alors il y a eu par la suite, à plusieurs reprises, des tentatives de réconciliation entre les deux.
On en est où?
Alors, la dernière semblait a priori plus prometteuse, mais pour le moment, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé parce que la raison, elle est bien simple, c'est que pour vraiment avancer, le Hamas doit renoncer à un certain nombre de positions qu'il a, et bien évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Donc je pense aussi que cette volonté de remise en selle, c'est une façon pour le Hamas de se positionner aussi dans cette logique interpalestinienne.
Leïla Sera, on lit que le Hamas est dans une situation compliquée au sein de la bande de Gaza, qu'il n'a pas obtenu les résultats. Résultat escompté, votre point de vue?
Le Hamas, tout à fait, est dans une situation difficile, mais au même titre que Mahmoud Abbas est dans une situation difficile. Moi, je pense qu'il faut presque déconnecter le sujet de la réconciliation et de l'échec de la réconciliation de ce qui est en train de se passer à Gaza. Si lien il y aurait entre les deux, pour moi, c'est uniquement l'échec définitif de la réconciliation qui est celle d'octobre, au sens où la dernière qui a été signée en octobre pour les Palestiniens a été un espoir immense n'a toujours pas abouti au résultat escompté. Et tout simplement, cet espoir immense a suscité aussi le mouvement de protestation. Donc s'il y a un lien direct entre les deux, c'est uniquement les espoirs déçus des Gazaouis qui souffrent du blocus russes et qui alors qu'ils avaient espéré que cette réconciliation aboutisse à quelque chose, ont aujourd'hui pris conscience que leur situation, leur sort était définitivement... ils devaient prendre eux-mêmes leur destin en main s'ils voulaient que l'allègement du blocus arrive et leur parvienne. Tout simplement, les Gazaouis aujourd'hui ne peuvent plus... ont des difficultés presque à manger. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est terrible. Elle ne ressemble plus du tout à ce que c'était en 2013. Donc, je pense que faire un lien direct constamment entre le politique, les divisions des Palestiniens et ce qui est en train de se jouer à Gaza, ça relève pas du tout de la réalité, du vécu des Gazaouis qu'il faut prendre en considération pour comprendre tout simplement pourquoi ils mobilisent.
Blocus des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté israélien, Alain Diekhoff, et du côté égyptien.
Oui, alors ça c'est, je dirais, le développement qui n'est pas récent, hein, qui date maintenant de quelques années, mais c'est en effet que après l'intermède de la présidence de du frère musulman Mohamed Morsi en Égypte, qui avait un peu allégé et le blocus du côté égyptien, donc permis plus facilement, en particulier aux marchandises de passer, eh ben depuis l'arrivée de Sisi, tout ça est terminé. Il a au contraire mis en œuvre une politique de destruction systématique. Par exemple des tunnels au sud de Gaza.
Alors, il faut rappeler à quoi servent ces tunnels.
Alors ils servent à beaucoup de choses. Ils servent, il faut pas être naïf, ils servent aussi à transporter des armes, même parfois relativement importantes. Mais bien évidemment, il a aussi une vertu pour faire transporter des réfrigérateurs, de la nourriture, des choses comme ça. Donc il y avait une contrebande assez générale qui était organisée.
Ce sont des infrastructures illégales. Elles sont détenues par différents. Alors, il y a des choses qui transitent.
Alors il y a des biens, encore une fois, comme je l'ai dit, de consommation ou d'équipement tout à fait légitimes. D'autres, évidemment, qui le sont un peu moins. Et donc, en tous les cas, la politique de Morsi de Sisi a cherché justement à mettre fin à ça.
Pourquoi?
Tout simplement parce que son ennemi à Sisi, ce sont les frères musulmans. Et donc, le président qui l'a précédé, Morsi, faisait partie de cette mouvance. Les frères musulmans sont aussi présents à Gaza via le Hamas. Et donc, bien évidemment, il les combat des deux côtés. Donc, il y a, dans sa politique, aussi dure soit-elle, il y a au moins une cohérence dans le choix qu'il fait.
Léla Sera, on a une situation terrible, effectivement, dans la bande de Gaza, qui est liée donc à la fois à ce blocus de part et d'autre, qui est lié aussi à toute une série de problèmes de corruption du Hamas.
Non, les difficultés dans la bande de Gaza sont pas liées à des problèmes de corruption du Hamas. Non, le blocus, comme vous l'avez rappelé, il est côté égyptien, israélien. Côté égyptien, juste pour information, je dirais quand même que à l'époque de Moubarak, donc avant l'élection de Sisi, il y avait quand même déjà beaucoup de produits qui circulaient, donc y compris des armes, à travers les tunnels. Donc je sais pas s'il faut faire un lien direct entre l'idéologie du nouveau président et donc son le fait qu'il est pour ennemi les frères musulmans n'explique pas complètement la destruction des tunnels, au sens où Moubarak aussi avait en grippe les frères musulmans et laissait aussi pour ses propres intérêts circuler des biens par les tunnels. Donc je crois que pour l'Égypte, la question de Gaza relève d'une question d'intérêt national, est une question délicate qu'il faut absolument régler. Et là, pour la première fois, c'est vrai, la différence des prédécesseurs, Sisi essaye de régler la situation en proposant à Trump, ou en tout cas Trump essaye de proposer à Sisi un problème définitif au règlement des réfugiés, en demandant à Sisi tout simplement d'accepter le déplacement de réfugiés palestiniens de Gaza dans le Sinaï. Donc ça c'est une chose. Je crois aussi que le blocus, il faut rappeler tout simplement donc qu'il est aussi imposé par Israël, mais aussi renforcé par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui a imposé des sanctions à la bande de Gaza et les a renforcées notamment depuis l'échec de cette fameuse réconciliation d'octobre dernier. Donc je crois que Mahmoud Abbas, quand il parle de sanctions, d'ailleurs qu'il décrit comme des sanctions relevant de l'unité nationale, il est décrit comme des sanctions patriotiques presque, et il s'impose comme vraiment le président d'une patrie palestinienne et présente ces sanctions très dures qui affament la population à Gaza comme relevant de vraiment quelque chose d'ordre qui relèverait de la patrie palestinienne et lui serait le défenseur de la patrie en imposant ses sanctions. Je crois que ce qui se joue derrière cet échec de la réconciliation et ces sanctions, c'est quand même un peu plus compliqué que le Hamas ne veut pas livrer Gaza, donc Mahmoud Abbas impose des sanctions.
On en reparle dans une vingtaine de minutes, Alain Diekhoff, Léla Serin. On se retrouve notamment pour évoquer la situation dans la région, pour voir comment les jeux d'alliance qui sont en train de se modifier peuvent influer sur la question palestinienne et sur la situation de l'État hébreu.